Le journal Romain Dezek.
Bonsoir. À la une ce soir, l'arrestation de Piotr Pavlinsky, l'artiste russe qui revendique la diffusion de la vidéo intime de Benjamin Griveaux, est en garde à vue. Alors même que La République En Marche, en pleine crise, se cherche un nouveau candidat, le nom d'Agnès Buzyn revient avec force. Les municipales, c'est aussi le Rassemblement National qui recrute chez les Républicains. Illustration à 7 dans l'Hérault, Marine Le Pen aux côtés de l'ancien président LR du département. Le coronavirus, premier mort en France à un patient âgé de 80 ans. Son décès est-il directement imputable au virus? C'est plus compliqué que cela, nous dira un spécialiste. Nous serons également en Égypte, premier pays africain touché par l'épidémie. De la neige ramenée par hélicoptère, choix radical d'une station de ski dans les Pyrénées face au manque de poudreuse. Le sport avec le PSG en difficulté à 3 jours du choc face à Dortmund. Déplacement à Amiens, nous serons en direct. Et puis la météo, ça souffle sur les côtes. Le Morbihan et le Finistère en vigilance orange pour pluie et inondations. Bulletin complet dans 20 minutes.
France Inter.
Le parquet de Paris l'a donc annoncé il y a une vingtaine de minutes. Piotr Pavlinsky, cet homme qui affirme être à l'origine de la diffusion de la vidéo de Benjamin Griveaux, est actuellement en garde à vue. Ariane Grissel, il est interrogé non pas sur cette fameuse vidéo, mais par rapport à une autre affaire.
Oui, Piotr Pavlinsky est en garde à vue pour des violences dont il est soupçonné d'être l'auteur. Violences avec armes contre 3 personnes, des faits survenus à Paris la nuit du Nouvel An. Et c'est dans la capitale qu'il a été interpellé aujourd'hui. Il est en garde à vue dans le commissariat du 5e arrondissement. Alors effectivement, le calendrier a de quoi étonner. Cette interpellation intervient 3 jours seulement après la diffusion de vidéos à caractère sexuel concernant Benjamin Griveaux sur le site internet de Piotr Pavlinsky. Ces images qui ont amené le candidat à la mairie de Paris à renoncer. Mais du côté des autorités, on l'assure, c'est bien de l'affaire du Nouvel An dont il s'agit aujourd'hui et seulement cette affaire-là. D'autant que à ce stade, Benjamin Griveaux n'a pas déposé plainte pour la diffusion des vidéos. Aucune enquête n'est ouverte. L'artiste russe de 35 ans ne sera donc pas entendu sur ces faits.
Ariane Grissel du service police-justice de France Inter. L'artiste russe qui a torpillé la campagne LREM à Paris pour les municipales. Après la démission de Benjamin Griveaux, les cadres du parti se sont réunis à plusieurs reprises ces dernières heures afin de trouver celui ou celle qui pourra reprendre le flambeau et le porter tant bien que mal. Simon Le Baron, vous avez suivi ces discussions, ces tractations. Il y a un nom qui est évoqué en ce moment, c'est celui d'Agnès Buzyn.
Oui, hypothèse relancée par certains marcheurs qui, depuis le huis clos des réunions, tentent de pousser cette candidature. Buzyn, la ministre de la Santé, qui a pourtant indiqué hier sur France Inter qu'elle ne pourrait pas remplacer Benjamin Griveaux, trop occupée par la crise du coronavirus. Elle avait d'ailleurs été pressentie un temps comme tête de liste dans le 15e arrondissement avant de décliner pour la même raison. Mais elle est la seule capable de porter le sursaut du camp macroniste dans la capitale, nous assure une cadre de la majorité. Et si elle refusait d'y aller, eh bien certains autour de la table plaident en ce moment pour une hypothèse extrême, qu'il n'y ait pas de candidat. On préfère faire une croix sur Paris plutôt que sur tous nos autres candidats et sur l'avenir. Difficile pourtant d'imaginer le mouvement présidentiel abandonner purement et simplement la campagne parisienne. Encore un peu de patience pour avoir une réponse claire. Il n'y aura pas de fumée blanche ce soir, selon la communication du parti. Un marcheur de tout premier plan précise, plutôt demain.
Simon Le Baron avec les moyens techniques de Marc Garvenès pour France Inter. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle, continue son tour de France à 1 mois du premier tour. La patronne du Rassemblement National était dans l'Hérault à 7, satisfaite d'afficher, entre guillemets, son trophée. Sébastien Pacul, l'ex-président LR du département qui a rallié sa cause. Maxence Lambrecq.
Marine Le Pen devait faire le tour du marché, mais par peur d'un comité d'accueil bruyant comme hier à Nîmes, la patronne du RN n'a fait qu'une conférence de presse dans un hôtel pour valoriser sa nouvelle recrue.
C'est vrai qu'il a été très rare dans le passé que le Rassemblement National soutienne des candidats qui ne soient pas des candidats Rassemblement National.
À sa gauche, donc, Sébastien Pacul.
J'ai décidé de créer une liste d'union des droites et de faire céder certaines digues dans l'Hérault, puisque j'étais l'ancien président des Républicains de l'Hérault.
Certaines digues à Frontignan, Lunel, ailleurs, le RN reste à l'écart. Il n'attire que les opportunistes, attaque Sébastien Denaja, ex-député PS, aujourd'hui candidat à la mairie.
Est-ce que les Sétois peuvent faire confiance à quelqu'un qui pendant 12 ans en fait était le premier serviteur du maire sortant et qui maintenant prétend être son premier détracteur? Vous voyez, tout ça n'est pas cohérent.
Le maire sortant, François Comen, est soutenu par LR et En Marche, mais veut une campagne 100% locale.
Une élection municipale municipale, c'est pour un projet de ville, c'est pas pour un projet d'un parti politique. C'est pas Marine Le Pen qui va gérer la ville, c'est pas Robert Ménard qui va gérer la ville. Il gère très bien sa ville de Béziers, mais à 7, personne ne le connaît et personne ne va lui faire confiance.
Au contraire, à 60 km d'ici, Robert Ménard fait figure de modèle et est crédité de 60% des voix dès le premier tour. 7, Maxence Lambrecq, France Inter.
Le 66e week-end de mobilisation des Gilets jaunes à Rennes, près d'un millier de personnes rassemblées, manifestations non déclarées et quelques tensions avec les forces de l'ordre. Le coronavirus a donc fait sa toute première victime en France et plus largement hors d'Asie. Un touriste chinois arrivé dans l'Hexagone le 16 janvier, une personne âgée de 80 ans. Mais c'est davantage l'état de santé de la victime qui a provoqué sa mort, plus que le virus. C'est ce qu'explique Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris.
Il est arrivé à Bichat le 28, intubé, ventilé. Et donc, dès le départ, on a dit que le patient était dans un état grave. Le risque de mortalité était évalué à 70%. En sachant que les réanimateurs ont des scores pour évaluer la mortalité en fonction de l'état de chacun. Et ça, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Hein. C'est vraiment la mortalité de quelqu'un qui arrive en réanimation avec des défaillances respiratoires, notamment. Il avait une insuffisance rénale, etc. Mais malgré tout, on s'est battu jusqu'à la fin parce qu'il y avait quand même une probabilité qu'on inverse les choses. Mais malheureusement, on n'est pas arrivé.
Et d'après la ministre de la Santé, la fille de la victime, elle aussi contaminée, devrait pouvoir sortir prochainement. Au total, 6 patients sont hospitalisés en France sans inquiétude sur leur état de santé. Le virus qui touche désormais un nouveau continent, l'Afrique. L'Égypte confirme un premier cas. Depuis plusieurs jours, les États africains, dont certains sont étroitement liés avec la Chine, renforcent leur contrôle. De nombreux experts craignent que certains pays, les plus pauvres, n'aient pas les moyens de contrôler l'épidémie. Et pour le gouvernement égyptien, c'est donc un premier test, Martin Roux.
À son arrivée à l'aéroport du Caire, ce ressortissant étranger a été immédiatement testé. Il a ensuite été transféré en ambulance vers une zone de quarantaine. C'est là qu'ont également été placés à l'isolement pour 2 semaines les 360 Égyptiens rapatriés de Wuhan au début du mois. Les personnes rentrées en contact avec ce patient sont également placées à l'isolement à leur domicile pour 2 semaines. Elles seront suivies 24 heures sur 24. Avec la prise en charge de ce premier cas de coronavirus en Égypte, le ministère de la Santé veut donc montrer que ces mesures d'urgence fonctionne au moment où ces autorités sanitaires sont critiquées pour leur manque de transparence. Selon le site d'information Madamasre, certains médecins envoyés dans la zone de quarantaine n'étaient pas informés de la nature de leur mission. Autre source d'inquiétude, l'application des mesures d'hygiène décrétées dans les écoles, alors que les élèves égyptiens ont entamé depuis une semaine le second semestre. Avec des services hospitaliers très dégradés, une propagation du virus serait extrêmement dangereuse. L'Égypte dispose de moins de 2 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants, c'est près de 4 fois moins qu'en France. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
France Inter, 19h08. La sécurité mondiale et notamment européenne, enjeu d'une grande conférence tout ce week-end à Munich et à laquelle participe Emmanuel Macron. C'est une première pour un chef d'État français depuis 2009. Avec un format un peu spécial, séance de questions-réponses avec des chefs d'État et de gouvernement. Ludovic Piétenu, vous y avez assisté pour France Inter. Durant cet échange, Emmanuel Macron a appelé l'Allemagne à plus d'engagement.
Oui, Emmanuel Macron en a désormais l'habitude. Cela fait près de 3 ans qu'il formule des propositions pour l'Europe. 3 ans bientôt que la réponse du partenaire allemand est souvent assez faible.
J'ai pas de frustration, j'ai des impatiences. Nos classes moyennes ont un doute sur l'aventure européenne. Si le couple franco-allemand ne sait pas apporter, et avec lui, tous les partenaires européens, une réponse claire à ces défis, à ces sujets, et une perspective d'avenir pour les classes moyennes, nous aurons fait une erreur historique.
L'Allemagne, une fois de plus, a accueilli poliment mais sans beaucoup plus de commentaires la dernière offre du président français. Emmanuel Macron, très direct, tant il semble avoir compris qu'il y avait peu de chances pour que Berlin aille à court terme dans son sens. Un avis partagé par Franziska Brandner, que j'ai croisée ici à Munich. Elle est députée allemande du Parti des Verts.
Il y a encore des gens à côté de moi, pas de mon parti, mais d'autres qui disaient « mais qu'est-ce qu'ils nous proposent là tout ça ? Ils n'arrivent même pas à faire une réforme des retraites ». J'ai pas l'impression que ce gouvernement actuel à la force de faire quoi que ce soit. Pendant encore 1 an au moins, on aura une phase d'attente du côté français.
Une phase d'attente doublée du fait que depuis lundi, l'Allemagne traverse une crise politique avec le retrait de la course à la chancellerie d'AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, la dauphine désignée d'Angela Merkel. Le parti de la chancelière, la CDU, est beaucoup trop occupé à trouver un candidat et l'Allemagne trop concentrée sur ses problèmes de politique intérieure.
Et on reste en Allemagne, merci Ludovic Piétenu. En Thuringe, plusieurs milliers de manifestants réunis à Erfurt contre le rapprochement avec l'extrême droite, 18 000 personnes selon les organisateurs. Pas de pacte avec les fascistes, jamais et nulle part, pouvait-on lire sur certaines banderoles. C'est dans ce land de l'ex-RDA qu'un candidat de centre-droit a été élu avec le soutien de la CDU et surtout de l'extrême droite, l'AFD, avant de démissionner. Vous l'avez sans doute constaté depuis le début de l'hiver en France, que vous soyez ou non en altitude, il fait très doux et c'est un problème pour certaines stations de ski. La neige, quand elle tombe, ne tient pas. Et pour éviter une saison compliquée, la station pyrénéenne de Luchon-Superbannière a décidé d'aller chercher de la neige par hélicoptère. Pas très écolo, Sébastien Sabiron, mais l'économie de la station est en jeu.
Oui, l'idée étant d'éviter absolument la fermeture de l'espace débutant. Deux pistes, deux téléskis, pas assez de froid pour produire de la neige artificielle, d'où cette solution radicale, aller en chercher par hélicoptère tout en haut du domaine skiable. Hervé Pounot dirige la régie des stations de Haute-Garonne.
C'est quelque chose qui va nous coûter entre 5 et 6 000 euros. Mais qui va nous garantir 500 000 euros de recettes. Nous avons 50 moniteurs de ski à travailler sur cette zone en partie. Si jamais cette zone est fermée, les moniteurs ne pourraient pas travailler. Ainsi que, bien sûr, l'activité induite, les loueurs, les restaurateurs, les différents commerçants.
Au total, 50 tonnes de neige seront transportées entre le haut et le bas de la station. 80 rotations avec l'hélicoptère habituellement dédié au secours. Pas du tout éco-responsable, mais Hervé Pounot assume et souligne le caractère exceptionnel de cette mesure.
3 heures d'hélicoptère, c'est ni plus ni moins que l'équivalent de prendre l'hélicoptère et de faire un trajet entre Toulouse et les Pyrénées. On va consommer du kérosène, du pétrole. On n'est pas dans le sens de l'écologie. Ce ne sera pas une habitude, on ne va pas continuer comme ça. C'est pour répondre à l'urgence de cette période de vacances qui est primordiale pour le territoire.
Et cet héliportage permettra, dit-il, de préserver au total une centaine d'emplois jusqu'à la fin de saison. En décembre dernier, dans les Alpes de Haute-Provence, la station de Montclar avait fait le même choix pour sauver ses vacances de Noël.
Sébastien Sabiron pour France Inter. Prudence en Bretagne, le Morbihan et le Finistère sont en vigilance orange pour risque de pluie et d'inondation à cause de la tempête Dennis. De forts cumuls de pluie attendus à partir de 23h, des rafales de vent au-delà des 100 km/h. Au Royaume-Uni, 220 vols EasyJet au départ et à l'arrivée de Londres ont été annulés. La Ligue 1 de football avec le dernier test pour le PSG avant le choc face à Dortmund. Mardi soir en Ligue des Champions, on rejoint tout de suite Jean-Pierre Blimaud. Jean-Pierre, les Parisiens jouent à Amiens et les Parisiens qui mènent au score.
Oui, 4 buts à 3 pour le Paris Saint-Germain, mais l'équipe parisienne a été menée 3 buts à 0 dans ce match en première mi-temps avec des buts magnifiques, hein, signés Guirassy, Kakuta et Diabaté. Je pense notamment au deuxième but de Kakuta, une très belle frappe pied gauche en lucarne opposée. Les 13 000 spectateurs du stade de la Licorne à Amiens ont halluciné à ce moment puisque le 19e de Ligue 1 menait 3 à 0 sur son terrain face au leader incontesté de la Ligue 1. Oui, mais voilà, en face, il y a le Paris Saint-Germain qui est d'abord revenu par Herrera juste avant la pause et puis avec un doublé du jeune défenseur Tanguy Kouassi sur corner est revenu à 3 partout avant que Mauro Icardi, l'Argentin de cette équipe parisienne, l'un des Argentins, ne marque le 4e but. Pour l'instant, c'est un Paris Saint-Germain renversant qui est en train de préparer correctement finalement son déplacement de mardi en Ligue des Champions à Dortmund. Le match n'est pas encore tout à fait fini, il reste 5-6 minutes à jouer, mais l'équipe du Paris Saint-Germain est passée tout de même très près d'une correction ici à Amiens.
Et au moins, il y a du spectacle. Merci beaucoup Jean-Pierre Blimaud en direct du stade de la Licorne à Amiens. Parlons d'un prodige maintenant, et le terme n'est pas galvaudé, il s'appelle Armand Duplantis, il a 20 ans seulement, et il vient de battre son propre record du monde de saut à la perche, 6 m18, record qu'il avait chippé à Renaud Lavillenie il y a quelques jours seulement. Jérôme Val, le Suédois, s'annonce comme le patron de la discipline à 5 mois des Jeux Olympiques.
Oui, et c'est l'aisance de Duplantis qui marque une nouvelle fois un geste pur, un saut net au-dessus de la barre sans la toucher. Celui que l'on surnomme Mondo a attendu son 5e essai dans la salle de Glasgow pour améliorer une nouvelle fois son propre record, 1 cm de mieux que la semaine dernière. Alors le record de Sergueï Boubka avait tenu 20 ans avant d'être battu par Renaud Lavillenie, vous l'avez rappelé, il y a 6 ans. Duplantis s'est envolé en encore plus haut deux fois en 7 jours. La marque en effet d'une précocité sidérante. Le Suédois était devenu champion d'Europe en 2018 à 18 ans à peine avec un saut déjà à 6,05 m. Au même âge, la légende Bubka atteignait 5,40 m. L'Avilloni culminait lui à 4,81 m. C'est dire si Duplantis a une marge énorme devant lui. Alors jusqu'où pourra-t-il aller? Lui qui est attendu en France la semaine prochaine au meeting de Liévin mercredi et à Clermont-Ferrand dimanche.
Il y aura forcément du monde pour venir le voir. Merci Jérôme Val du service des sports de France Inter. Les premières médailles du biathlon tricolore aux mondiaux d'Anterselva en Italie. L'argent pour Quentin Fillon-Maillet, le bronze pour Martin Fourcade. C'est le russe Loginov, suspendu 2 ans pour dopage, qui est sacré champion du monde de sprint. Les bleus qui seront en embuscade lors de la poursuite demain. 19h15 sur France Inter. La vie connectée avec vous, Christine Séméon. Bonsoir.
Bonsoir.
Cette semaine, vous avez scruté les plateformes de financement participatif. Il y a clairement deux tendances qui se dégagent sur les projets financés. D'un côté, ceux qui viennent en aide aux entreprises et de l'autre, ceux qui ont des impacts positifs sur la société.
Je vous donne d'abord quelques chiffres. Chez KissKissBankBank, les projets qui mettent en avant la solidarité viennent en troisième position, juste après la musique et les films. Pour les projets musicaux, la contribution moyenne est de 55 euros, mais elle est de 66 euros pour les projets solidaires. Chez Ulule, les projets les plus soutenus sont ceux d'entreprises solidaires et citoyennes, juste devant des projets de cinéma ou vidéo et des projets musicaux. Concentrons-nous donc sur les projets d'entreprise, car ce sont eux qui gagnent du terrain sur la plateforme Ulule au fil des années. Sur Ulule, en 2019, les plus gros projets soutenus ont été ceux des culottes menstruelles Réjeanne, en tête des projets entrepreneuriaux féminins, avec 8000 préventes pour 3500 contributeurs. On trouve dans cette catégorie d'autres projets pour fabriquer de la lingerie, des déodorants, des projets de livres pour le bien-être et les femmes. Écoutez Arnaud Burgot, le patron de Ulule.
Réjeanne, effectivement, en culotte mensuelle, alors des projets de culotte mensuelle, il y en a eu pas mal ces derniers temps. C'est une lame de fond qu'on a vue, enfin vraiment une grosse tendance qu'on a vue depuis ces 3 dernières années. Et donc, dans la catégorie de tout ce qui est produits d'hygiène personnelle, effectivement, c'est un projet qui a très très bien fonctionné.
Mieux encore que Réjeanne, le projet le plus notable sur la plateforme française, c'est celui des baskets Corail, fabriqué avec du plastique récupéré en mer. Corail est pile dans le gros de la tendance, c'est-à-dire celle des entreprises écolo-compatibles.
Il y a à la fois des entrepreneurs qui veulent faire des choses plus vertes en termes de moyens de production et de moyens de distribution, et puis des internautes, des ululeurs comme on les appelle, qui veulent que des produits comme ça existent parce qu'en fait, ils en ont besoin. Donc ils ont envie de consommer moins de plastique, ils ont envie d'acheter des produits qui sont à côté de chez eux, donc le Made in France est vraiment plébiscité chez nous. Et donc effectivement, qu'on les appelle green ou écolo, enfin c'est vraiment une tendance majeure aujourd'hui. Je pense qu'il y a 2/3 à peu près des projets qui, au cœur de leur démarche, sont dans cette catégorie-là.
Christine, qui soutient ces projets?
Ni investisseurs, ni petits porteurs d'actions, ces donateurs donnent un visage de la consommation nouvelle tendance. On donne d'abord à des projets dont on connaît bien les porteurs, mais sur Ulule, certains ont donné depuis le début à des centaines de projets. 460 projets pour le donateur le plus actif. 180 projets pour un donateur âgé de 70 ans qui aime soutenir des projets musicaux. 500 personnes sur Ulule ont soutenu plus de 50 projets. On a toujours dit qu'au final, c'est le consommateur qui choisit. C'est toujours vrai et c'est de plus en plus vrai.
Vie connectée sur les plateformes de financement participatif, c'est à retrouver sur franceinter.fr. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski, c'est un peu de salle de ambiance.
Contraste demain entre le temps perturbé, venteux et pluvieux de la moitié nord et l'ambiance plus calme au sud de la Loire, mais sous un ciel néanmoins assez voilé dans l'ensemble et parfois maussade l'après-midi du golfe du Lion à la Provence, le tout dans une douceur partout encore plus affirmée qu'aujourd'hui. Donc un dimanche perturbé pour les régions du nord de la Loire, ponctué de pluies plus marquées sur les côtes, également sur les départements du quart nord-ouest, placés en vigilance orange en raison des fortes quantités de précipitations. Le vent sera également de la partie avec des rafales proches de 90 km à l'heure dans l'intérieur, mais parfois supérieures à 110 en bord de mer. Un vent toutefois beaucoup moins tempétueux que le week-end précédent et sans risque de submersion marine au vu des coefficients de marée relativement bas.